Ils pensaient ne plus jamais te revoir, malgré tous tes enseignements. Ils avaient presque rien compris. Tu es passé par Golgotha et le désillusionnement les avait envahis. Traumatisme, tu n'étais plus des leurs. Accroché sur le haut d'une croix, assassiné, mis au tombeau. Impossible de continuer comme tes disciples. Puis, tu es revenu. Et maintenant, tu recommences, tu les quittes encore. Comment peux-tu penser qu'ils surmonteront ce nouvel abandon? Jésus, pour moi aussi, rien ne compare à ta présence, ni le texte sacré qui parle de toi, ni le Saint-Esprit que tu proposes pour te remplacer. Il m'est difficile de comprendre comment ton absence pourrait être positive. C'est toi que je veux voir. C'est toi que j'attends. Moi aussi, j'ai comme eux les yeux fixés vers le ciel. Je ne suis pas certain de pouvoir poursuivre sans te voir, te toucher, manger avec toi, m'asseoir à tes pieds. J'attends ça depuis si longtemps, Seigneur. J'ai besoin plus qu'une théologie sur toi et sur le Saint-Esprit. J'ai besoin de faire l'expérience de ta présence. Je suis comme Thomas, je l'admets. Je ne m'en cache pas. Comme Jésus se trouvait avec eux, puis à la fin du passage, Jésus fut enlevé pendant qu'il le regardait. Jésus, si j'avais pu choisir moi, je ne t'aurais pas enlevé vers le ciel. Non, tu serais resté ici avec nous. Les gens auraient pu continuer à être directement interpellés par ta présence, ton visage, ta voix, tes miracles, ton ministère. Le christianisme aurait été plus concret, terre à terre, dans le visible, plutôt que l'invisible. Un royaume ici et maintenant plutôt qu'en haut et plus tard. Un sauveur, un seigneur, un roi, un prince de paix que nous rencontrerions non par l'intermédiaire d'une parole écrite, d'une parole déclarée par un prédicateur, ni par l'intermédiaire de disciples bien imparfaits que je suis. Tu aurais pu être le pasteur d'une super grande église ici à Montréal. Tu aurais pu trancher directement, sans appel, les questions de théologie, d'interprétation ou de pratique chrétienne. Moi, je t'aurais donné ma place de doyen à l'État Mibivi, c'est sûr. Puis je ne serais pas ici à l'Oasis en train de prêcher, d'enseigner ou ailleurs. Ce serait toi, Jésus, notre seul enseignant. Comprends-moi, j'apprécie que tu nous parles autant de ton Père et du Saint-Esprit, mais j'apprécie moins si ça veut dire que toi, tu disparais. Comme Jésus se trouvait avec eux, Jésus fut enlevé pendant qu'ils le regardaient. Il me semble, Jésus, que tu as compliqué les choses en nous quittant. Depuis 2000 ans, ton Église en souffre et a soif de ton retour. 3 jours d'absence, ça se prend. C'était nécessaire que tu passes par la mort. Je le comprends, je crie « Alléluia ! » Tu l'as fait pour moi, pour nous, pour quiconque ose croire en toi. Mais une deuxième absence qui cette fois-ci dure depuis 2000 ans, je ne sais plus. Le monde et parfois même ton Église semblent être à la dérive. Viens Jésus, viens, prends la place ici, toute la place. Moi, je suis prêt à me tasser, à te donner toute la place, à m'effacer complètement. Comme Jésus se trouvait avec eux, Jésus fut enlevé pendant qu'ils le regardaient. Je m'arrête quelques minutes, Jésus, parce que je veux que tu me parles par ta parole. Je me résigne à accueillir ta voix et à peser, la peser parce que je sais fort bien que ton plan, ta volonté sont parfaits. Tu me parles par ce texte, Jésus. Tu sembles me dire que tu nous as quittés pour que nous puissions prendre la relève de ta mission. Après leur avoir dit qu'eux s'en seraient baptisés du Saint-Esprit, tes apôtres te demandent si c'est à ce moment que toi tu rétabliras le royaume d'Israël. Et ta réponse, même une réprimande, est sévère. Eux veulent savoir quand et comment toi tu agiras, tandis que toi tu leur dis qu'eux seront tes témoins. et bien au-delà d'Israël. Est-ce possible, Jésus, que tu aies quitté pour que nous devenions des véritables ouvriers, des témoins, des bâtisseurs? Que si tu n'étais pas monté au ciel, nous aurions refusé de jouer notre part. Que tu voulais que je connaisse, moi, la joie d'être rempli de ton Saint-Esprit et de témoigner de toi, de servir en ton nom. Si moi j'ai tendance à te demander, Jésus, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Quand reviens-tu? Toi, tu me dis, toi, Jean, que fais-tu? Va, témoigne, sers. Et tu me dis, voici, Jean, ce que j'ai de plus précieux, le secret de mon ministère, le Saint-Esprit. Pas juste un baptême d'eau, pas juste du symbolique, pas juste du rituel, pas quelque chose seulement d'extérieur, mais d'intérieur. Le secret, Jean, c'est la personne divine du Saint-Esprit. C'est mon secret. C'est la véritable clé qui me rend présent tout en faisant de toi mon témoin. Au lieu que les gens regardent directement à toi, ils te verront en moi, en m'écoutant parler de toi. Aujourd'hui, on te voit par ceux qui te connaissent et que tu habites par ton Saint-Esprit. Aujourd'hui, on voit ta face en regardant les visages, les mains, les pieds et le cœur de tes disciples. Franchement, Jésus, je te dis que tu risques beaucoup à faire confiance à quelqu'un comme moi. Et je t'entends me répondre, non, pas tout à fait ça, Jean. Celui à qui je fais totalement confiance, c'est le Saint-Esprit. C'est à lui d'abord que la mission est confiée. C'est lui qui fera de toi un véritable témoin. OK, Seigneur, je suis prêt à revoir la place du Saint-Esprit dans ma vie. Pas juste dans ma doctrine, pas juste dans ma théologie. Je veux connaître le Saint-Esprit, le laisser agir de manière à ce que je sois vraiment, mais vraiment ton témoin. Laissé à moi-même, je suis plein de gêne, de crainte, de préoccupation. Est-ce que ton Saint-Esprit peut changer ça? Parle-moi du Saint-Esprit, Jésus. Enseigne-moi. Transforme-moi. Je suis faible. Rends-moi fort. Le Saint-Esprit, régulièrement négligé, souvent oublié, parfois même inconnu. Voilà la vedette de cette mini-série, le Saint-Esprit. Au mieux, il est le sujet d'un minimum d'enseignement dans nos églises, même évangéliques. C'est trop de doigts pour compter le nombre d'enseignements qu'on a reçus dans cette église sur le Saint-Esprit depuis les 8 ans que je suis là. Il y a 3 ans, lorsque j'ai proposé à un éditeur de revue chrétienne évangélique francophone, quand j'ai proposé un numéro sur le Saint-Esprit, ce frère m'a répondu rapidement, « Mais jamais de la vie! Il y a bien que trop de controverses! » Et dans ma famille d'église, moi, ça serait lui donner trop de place. Mais c'est vrai qu'on craint la controverse. La discussion vaine, ça nous fait peur, et avec raison, les divisions entre frères et sœurs. Et on explique nos choix en disant, surtout en disant de ne pas vouloir dérober au Père et au Fils la gloire qui leur revient. Donc, gardons le Saint-Esprit à sa place. Notre question pour ces 2 dimanches, qu'est-ce que Jésus pense de ça? Ce que je pense de ça, c'est vraiment très secondaire. Ce que tu penses de ça, c'est vraiment très secondaire. Qu'est-ce que Jésus en pense? Qu'est-ce que Jésus pensait du Saint-Esprit? Quelle était son attitude, sa conviction, son expérience du Saint-Esprit? J'ai entendu dire plus qu'une fois et souvent par la bande, « Mais on a la Bible! Nous avons les Écritures. C'est le texte de la révélation. C'est des mots inspirés de Dieu qui disent vrai de la part de Dieu. C'est mieux de s'en tenir puis de se confier aux Écritures. Et s'assurer qu'on ne parle pas trop du Saint-Esprit. Mieux être des gens de la Bible que des gens de l'Esprit de Dieu. On entend ça. Ça résonne peut-être un peu chez vous, comme ça résonne un peu chez moi. Ne sommes-nous pas mieux servis par un enseignement objectif, en voyant les gens être amis bivis, d'être bien formés, que de dépendre, puis de se mettre à écouter, puis de suivre le Saint-Esprit? N'est-ce pas mieux des fondements objectifs que des fondements très subjectifs? Qu'est-ce que Jésus en pense? C'est la question qui va nous habiter. Puis c'est vrai, on dit aussi souvent, c'est tellement plus facile de se rallier auprès, autour de Jésus. La deuxième personne de la Trinité, elle est tellement plus abordable. Nous nous sentons tellement mieux avec Jésus. Mais penser de cette manière-là, je pense que vous serez d'accord avec moi, on va le voir, que ce n'est pas la vie de Jésus. À quelque part, j'oserais dire que Jésus nous dit, écoutez, là, arrêtez de compter sur moi, le Saint-Esprit est là. J'en mets un peu épais. Mais si on est pour errer dans un sens ou dans l'autre, Jésus vraiment semble nous dire et nous redire, écoutez, faites-lui confiance au Saint-Esprit. Au tout début du ministère de Jésus, on vient de lire un passage dans Actes, chapitre 1, 4 à 9. C'est la fin de son ministère. C'est ses dernières minutes. Et il nous parle de l'importance du Saint-Esprit dans notre vie. Mais si maintenant on réembobine et on va jusqu'au tout début du ministère de Jésus, la première fois dans l'Évangile de Luc où Jésus ouvre la bouche, c'est le jour 1 de son ministère, non le jour dernier, mais maintenant le jour 1. On retrouve ça dans Luc chapitre 4 au verset 17. Jésus se leva dans les synagogues de Nazareth pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où était écrit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans les synagogues avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Les toutes premières paroles dans l'Évangile de Luc qui sortent de sa bouche, c'est « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Dès le premier jour, Jésus s'associe personnellement et intimement au Saint-Esprit. Il lui donne l'honneur d'être la source de son ministère, de son appel. Ce n'est pas une petite chose. Dès qu'il ouvre la bouche, il glorifie le Saint-Esprit. Il dit en quelque sorte, « C'est parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi que je suis ce que je suis, que je dis ce que je dis et que je fais ce que je fais. » Aujourd'hui, nous dit Jésus, l'Esprit de Dieu est là. J'en suis la démonstration, dit Jésus à son sujet. Il dit, je porte son onction. N'oubliez jamais, Jésus semble nous dire, que quand vous allez me voir proclamer, guérir, annoncer, délivrer, n'oubliez jamais que c'est le Saint-Esprit qui agit en moi. Il en est la source. Je suis, dit Jésus, le porteur de la vision et de l'action du Saint-Esprit. Nous sommes au jour 1 de son ministère. Il ne peut pas être plus clair, il ne peut pas être plus tranchant par rapport à la place du Saint-Esprit. Ses premières paroles et ses toutes dernières paroles, ça concerne le Saint-Esprit. Il commence son ministère en nous parlant du Saint-Esprit, de son association avec lui, et 3 ans plus tard, il n'a pas arrêté d'en parler. Il en parle encore. Dans le texte dans Actes 1 qu'on a lu, il dit, « Vous recevrez une puissance survenant sur vous. » Il parle du baptême qu'ils vont recevoir du Saint-Esprit, et il leur dit, « Le Saint-Esprit dont vous m'avez entendu parler, dont vous m'avez sous-entendu, constamment entendu parler depuis 3 ans. » Donc, le début, la fin et finalement l'entre-deux. Il n'arrêtait pas de parler, de présenter, d'expliquer, d'inviter les gens à se confier au Saint-Esprit. Il est fort possible que toi et moi, nous ayons fait fausse route. C'est possible que nous avons négligé, peut-être même oublié, le Saint-Esprit. En regardant ce matin aux Écritures, je sais que ce même Saint-Esprit est ici avec nous ce matin. Il est dans l'expectative que nous allons, par nos oreilles et notre cœur, entendre ce qu'il a à nous dire. Viens, Saint-Esprit, parle à ton Église en ce début de 2016, où nous allons vivre des transitions, des moments de discernement, des moments où il faudra être courageux. Si je proposais à Jésus de venir enseigner un cours à l'ETEMIBIVI. ETEMIBIVI, c'est l'école de théologie évangélique de Montréal et l'Institut biblique vie où je travaille. Si je lui proposais d'enseigner un cours, ça ne me surprendrait pas qu'il dirait, « Écoutez, vous n'avez même pas un cours sur le Saint-Esprit, moi je vais l'enseigner. » Un cours, on dit, de pneumatologie. On n'en a pas. Il y a des cours, plusieurs cours qui abordent la théologie du Saint-Esprit, mais on n'a pas un cours sur le Saint-Esprit. Ça ne me surprendrait pas que Jésus, c'est ce cours-là qu'il voudrait enseigner. On aimerait avoir l'heure juste sur le Saint-Esprit. Et je vous propose que pour avoir l'heure juste sur le Saint-Esprit, la seule manière d'y arriver, c'est d'avoir l'heure juste sur la relation entre Jésus et le Saint-Esprit. Si je peux être mis en confiance, si je peux comprendre comment Jésus, Saint-Esprit, comment eux autres étaient en relation, ce que Jésus pensait du Saint-Esprit, je pense, je sais que moi je vais vouloir en faire partie. Donc Jésus a beaucoup parlé du Saint-Esprit à ses disciples. On veut regarder un peu plus près comment lui-même voyait sa relation avec le Saint-Esprit. Quelle attitude avait Jésus envers le Saint-Esprit? Et comme je disais tantôt, au lieu de savoir qu'est-ce que vous en pensez ou ce que j'en pense, laissons Jésus nous parler par rapport à ce que lui en pensait. Et le plus que je regarde, le plus que je médite, le plus que je laisse l'Esprit me parler, ça me fait du bien de voir la relation que Jésus avait avec le Saint-Esprit. Je me sens comme, waouh! Je sens que c'est tellement beau de les voir ensemble, de voir Jésus dire, « Hey, n'oubliez pas le Saint-Esprit! » Puis de voir le Saint-Esprit qui dit, « Hey, n'oubliez pas Jésus! » C'est comme une famille, ces deux-là, évidemment, ils sont 3, mais on va parler de 2 pour l'instant, mais c'est une famille. Et je fais partie de cette famille. Je suis encouragé, moi, à donner au Saint-Esprit une place de choix, d'honneur, prioritaire, dans ce que moi je suis, dans ce que je dis, dans ce que je fais. Donc, on a vu les dernières paroles de Jésus dans Acte 1. Il nous parle du Saint-Esprit. On a vu les premières paroles de Jésus dans Luc chapitre 4 à la synagogue de Nazareth. Maintenant, puisqu'on veut regarder à ce que Luc, l'évangile de Luc dit, des fois dans l'évangile de Luc, c'est Jésus qui parle du Saint-Esprit, des fois c'est l'évangéliste, lui, ou des fois c'est un ange, des fois c'est un autre personnage de l'évangile de Luc. Donc, on va aller effectivement dans Luc chapitre 1 et verset 35. L'ange lui répondit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Le Saint-Esprit viendra sur toi, Marie. Comment ça va se faire? Le Saint-Esprit va venir sur toi, Marie. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Que nous enseigne ce texte si ce n'est que le Saint-Esprit est le médiateur divin ayant rendu possible l'incarnation du Fils? Pas une petite chose. Pas de Saint-Esprit, pas d'incarnation. Ici, le Saint-Esprit précède le Fils dans l'ordre du salut. À cause de cette implication du Saint-Esprit, de son nom qui couvre Marie, le Saint-Esprit, le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. Là où le Saint-Esprit intervient dans les affaires de l'humanité, là où Dieu vient rencontrer et agir au sein de notre humanité, c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler. Sans la présence vivifiante et puissante du Saint-Esprit, ce qui est humain reste toujours humain. Et ce qui est divin reste toujours divin. Mais là où passe le Saint-Esprit, quelque chose de nouveau, d'inédit, d'inexplicable se passe entre Dieu et les hommes. Et l'image par excellence, la réalité, l'incarnation. Dieu-homme. Moi, dans ma vie, je cherche plus que l'ordinaire, je sais pour vous aussi. Je veux être capable de vivre dans l'ordinaire, je veux être capable d'accepter l'ordinaire, mais j'aspire à plus que l'ordinaire. Je vois les impossibilités dans ma vie, dans ma famille. Elisabeth et moi, on forme un couple depuis, on est rendu où? 38 ans, je pense. Et croyez-le ou non, c'est pas difficile de croire, mais cette semaine, nous avons eu un moment de crise. Peut-être le pire depuis 10 ans. J'ai besoin, nous avons besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de l'extraordinaire dans l'ordinarité d'une chicane de couple. Dans ma vie, je cherche plus que l'ordinaire. Dans ma famille, chez mes garçons, chez mes voisins, dans mon pays, dans ce monde, il nous faut plus que l'ordinaire. Moi, je suis prêt à faire ma part. Que ce soit dans mon couple ou ailleurs, je suis prêt à faire ma part. Mais ça va prendre tellement plus que ça. Puis je ne parle pas juste de la part d'Élisabeth. J'ai besoin, nous avons besoin. Gloire à Dieu. Et c'est ça la part du Saint-Esprit. Dieu qui intervient dans notre humanité, c'est à travers le Saint-Esprit. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, Marie. » Ça va se faire. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est comme ça que ça va se faire. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu intervient, il n'y a pas seulement juste Jean et juste Élisabeth. Il n'y a même pas seulement Jean et Élisabeth. Il y a quelque chose de plus que Dieu seul peut faire. N'est-ce pas ce que Jésus veut que les apôtres saisissent dans Acte 1, verset 4? les apôtres lui disent, « Mais Jésus, quand toi tu vas rétablir? » C'est-tu ce moment-là? Vas-y, Jésus, come on, let's go! Et Jésus dit, « Non, 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 non! Vous recevrez, vous, une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Voyez-vous comment ce n'est pas tout à fait la même chose. Le « vous » apparaît. Continuons dans l'Évangile de Luc. Luc chapitre 3. Maintenant, c'est le baptême de Jésus. Jésus n'a pas encore parlé. Il va parler dans la synagogue au chapitre 4. Luc 3, 22. Et le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Toi, là, t'es mon fils bien-aimé. Tu as toute mon approbation. » C'est le jour de son baptême d'eau. Mais Jésus, lui, est baptisé avec de l'eau, mais, bonus, baptisé du Saint-Esprit. Tous les gens sont baptisés d'eau, mais Jésus est recouvert aussi du Saint-Esprit sous une forme corporelle ressemblant à une colombe. Et cette réception du Saint-Esprit dans sa vie, cette onction, est accompagnée d'une déclaration d'amour. On a chanté quoi tantôt, Christian? Je ne sais pas. Mais Jésus t'aime. Jésus me dit qu'il m'aime, en tout cas. C'est dans un des refrains. Mais que tu saches que Jésus t'aime, que tu saches vraiment, ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Hein? Je peux dire à Jean-François que Jésus t'aime. Puis ça va lui faire du bien de l'entendre. Mais c'est quand Dieu lui dit, « Tu es à moi, Jean-François, je t'aime. » Wow! Et ça, c'est le Saint-Esprit seul qui peut parler à notre cœur comme cela. Jésus reçoit au même moment qu'il est baptisé du Saint-Esprit cette déclaration que « Toi, je t'aime. Toi, tu es le mien. Moi, je suis ton papa. » Voyez-vous, le Saint-Esprit vient assurer, sceller, confirmer, rendre expérientielle la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Là où est le Saint-Esprit, là se trouve une expérience de famille, d'appartenance. Le Saint-Esprit nous fait du bien en ce que d'abord il nous plonge dans une expérience bien concrète que je fais partie de la famille de Dieu. Et c'est ce que Jésus expérimente aussi à ce moment-là. Lui-même avait besoin d'entendre, de goûter. N'est-ce pas ce que Paul va nous dire dans Romains, lorsqu'il dit, « Vous n'avez point reçu, vous aussi, un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption » par lequel nous crions « Abba, Papa, Père » en l'Esprit lui-même. Rends témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. C'est le Saint-Esprit qui va rassurer Jésus lors de son baptême. Au tout début de son ministère, Jésus est loin du Saint-Esprit, qui le rassure, « Oui, 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 tu es le Fils de Dieu. » Avant de vivre le service, avant de passer par la souffrance, liée à son appel d'être sauveur, d'être rédempteur, Jésus profite de cette présence rassurante du Saint-Esprit. « Tu es mon Fils. » Et combien je t'aime. Avant tout autre ministère, ce que l'Esprit fait dans ta vie, dans ma vie, ce qu'il veut faire, c'est de nous rappeler combien nous sommes aimés, combien nous lui appartenons, combien nous sommes précieux, combien nous sommes sa progéniture. Moi, ça me donne du carburant pour ma vie. Moi, ça me permet de continuer. Moi, ça me permet de passer, de survivre des moments difficiles. C'est du carburant pour ma vie. C'est un amour qui me permet de persévérer, d'endurer la souffrance. Et Jésus, là, il vit ça, lui, le jour de son baptême. Et on suit de continuer dans Luc, puis on voit, hey, ça n'arrête pas. Ça va se poursuivre. Jésus va souvent se retirer dans le désert, dans un lieu isolé, entre autres pour entendre, je crois, le chuchotement du Saint-Esprit qui dit, « Je t'aime. Je t'aime. Je suis content de toi. Tu m'appartiens. On est ensemble. Je t'aime. Fils, comme je t'aime. » Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » J'ai besoin d'entendre et je ne les entends pas toujours, ces paroles de l'Esprit à mon égard. J'ai besoin de les entendre plus souvent. J'ai besoin de m'arrêter. J'ai besoin de me mettre à son écoute. Qu'en est-il entre Jésus et le Saint-Esprit selon vous, jusqu'à date? Qu'en est-il entre Jésus et le Saint-Esprit? Ils s'entendent, ils s'apprécient, ils ne s'endurent pas du tout, ils ne se font pas confiance. Ils se font du coude pour savoir qui sera en premier. Selon Luc, jusqu'à date, ils forment une équipe du tonnerre, inséparable. On ne prendra pas des illustrations de l'équipe du Canadien, parce que là, ça sera un sacrilège. Le Saint-Esprit est là au moment de la conception du Christ. Il est là comme acteur premier lors du baptême de Jésus, mais il y a encore plus, nous dit Luc. Jean-Baptiste, lorsqu'on lui demande, « Mais écoute, là, on est tout mêlé, tu es le Messie ou tu ne l'es pas? » Là, on était sûr que tu l'étais. Pour répondre à leur question, Jean-Baptiste, il dit ceci, « Écoutez, je vais être clair, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Quand Jean-Baptiste veut distinguer entre lui et le Messie, il parle du Saint-Esprit. Il dit, non, moi je n'ai pas cette relation-là avec le Saint-Esprit. Moi, je suis capable de manier de l'eau, dit Jean-Baptiste. Moi, de l'eau, je suis capable de vous en envoyer en pleine face, autant que vous voulez. Oui. Plonger, n'importe quoi. Oui. Mais, écoutez, il y a un qui vient et qui baptisera lui du Saint-Esprit. Jésus a une telle relation avec le Saint-Esprit que non seulement lui-même est-il baptisé par le Saint-Esprit, mais on découvre, il devient le baptiseur par le Saint-Esprit. Il est celui qui va baptiser d'autres de ce même Saint-Esprit, pas seulement avec de l'eau comme fait Jean-Baptiste, mais avec le Saint-Esprit. D'être baptisé du Saint-Esprit? Celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jésus devient le Messie qui, lui, va pas seulement baptiser d'eau, mais va baptiser du Saint-Esprit. C'est lui qui a un privilège, une relation privilégiée de pouvoir baptiser de quelqu'un d'autre, du Saint-Esprit.
Quand on dit Jésus est vivant, c'est qui est vivant? C'est lui ou c'est l'Esprit Saint en lui?
C'est toutes les questions qu'on cherche, j'espère, à clarifier. Mais on va continuer. Effectivement. La réponse, oui. Le Fils, il est vivant. Il est ressuscité, il est vivant. Le Saint-Esprit est vivant aussi. Quand on reçoit Christ, est-ce qu'on reçoit le Fils, on reçoit le Saint-Esprit? Toutes ces questions-là sont importantes, sont valables. Et poursuivons, parce que je pense qu'il y a un fondement. Si on comprend la relation entre Jésus et le Saint-Esprit, je suis convaincu qu'il y a des questions qui vont devenir moins pointues, moins genre, écoute, c'est soit ça ou ça. Voilà. On commence à apprécier, j'espère, il est quelle heure? Encore quelques minutes. La relation qui existe entre le Fils et le Saint-Esprit, cette relation-là, au point où Jésus baptise du Saint-Esprit. Si tu viens à Jésus et si tu places ta confiance en lui, il est le seul sauveur. Si tu viens à Jésus et tu places ta confiance en lui, ça ne sera vraiment pas long qu'il va te présenter au Saint-Esprit. Et si, pour toutes sortes de raisons, tu viens au Saint-Esprit, ça ne sera pas long que lui va te parler puis va t'amener à Jésus. Voyez-vous la relation qu'il y a? Ça ne veut pas dire que Jésus est le Saint-Esprit est Jésus, puis il y a confusion. Non. Il y a trois personnes clairement identifiées, mais on parle ce matin de la relation entre Jésus et le Saint-Esprit. Ce sont deux inséparables. Je ne peux comprendre qui est le Fils sans comprendre qui est le Saint-Esprit. Je ne peux pas venir au Fils sans que celui-ci me présente et me confie au Saint-Esprit. Je ne peux pas venir au Saint-Esprit sans qu'il me donne aussitôt rendez-vous avec Jésus. Voyez-vous, c'est une famille. Et quelle famille, quelle belle famille qui se fait confiance. Rapidement. Très rapidement, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Voyez-vous que dans Luc, le Saint-Esprit, là, il est là à chaque étape de l'appel du ministère de Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert en vue de cette période de tentation. Voyez-vous, pour Jésus, le Saint-Esprit n'est pas seulement un associé du début du ministère. Il n'est pas juste une onction en vue du ministère. La place que Jésus accorde au Saint-Esprit n'est pas juste pour un temps, mais Jésus est tout rempli du Saint-Esprit, tout le temps. Et c'est le Saint-Esprit qui le remplit, qui va le conduire dans le désert. Et Jésus fait confiance. C'est le Saint-Esprit qui décide, qui mène Jésus, qui conduit Jésus dans le désert. Et Jésus lui fait confiance. Jésus acquiesce aux intentions, aux inclinations du Saint-Esprit. Il s'abandonne entre les mains du Saint-Esprit. Même si ce qui viendra sera difficile, plein de dangers. Confiance, soumission, obéissance, dépendance. Jésus, par rapport au Saint-Esprit, confiance, obéissance, soumission, dépendance. Il n'y a pas d'hésitation chez Jésus. Et c'est là que le texte me parle en particulier. Il n'y a pas d'hésitation chez Jésus. Et moi, en tant que professeur, en tant que chrétien, après 40 années de vie chrétienne, en tant qu'enseignant, théologien, il y a un instant, là, il faut que je check ça. Là. On va voir, je vous reviens dans 24 heures. Jésus n'a pas d'hésitation à faire confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le conduit. C'est le mot qu'on utilise pour dire quand un bien-voyant conduit un aveugle. C'est fort. Il se laisse conduire. Ignace de Loyola nous parle de la sainte indifférence, comment c'est essentiel, si on veut discerner et suivre le Seigneur, qu'on soit caractérisé par une sainte indifférence. Whatever, quoi que ce soit que tu me demandes, oh Dieu, je vais le faire. J'obéis avant même de savoir. C'est ça une sainte indifférence. Et Jésus, il a cette sainte indifférence, il suit le Saint-Esprit, il est conduit par le Saint-Esprit. Si je ne laisse pas l'Esprit de Dieu me conduire, c'est que je l'empêche de faire quelque chose qui est essentiel, qui est fondamental dans son appel à lui, son mandat au Saint-Esprit. Le rôle majeur que joue le Saint-Esprit dans ma vie, c'est parce que le Saint-Esprit a joué un rôle majeur dans la vie de Jésus. Quand Jésus nous parle du Saint-Esprit, Actes chapitre 1, vous recevrez une puissance, faites-lui confiance, vous serez mis. À chaque fois que Jésus nous parle du Saint-Esprit, c'est parce que lui-même, il a vécu exactement ça. Il ne nous parle pas du Saint-Esprit parce qu'il est en train de checker sa liste. Le Père veut que je parle du Saint-Esprit. Il parle de son vécu, de son expérience, de sa marche avec le Saint-Esprit. Ce que Jésus me demande par rapport à ma vie, ma mission, en rapport avec le Saint-Esprit, ce n'est rien de plus que ce que lui, il a vécu. Ça, moi, ça m'encourage. Jésus, effectivement, nous appelle et nous enseigne à partir de son expérience à lui. Il nous dit, « Hé, là, arrêtez-moi ça! Vous pensez avec vos études bibliques, vos écoles de théologie, comprendre suffisamment pour pouvoir bien me servir? Ben non, il vous manque le ministère du Saint-Esprit. Comment pensez-vous que moi, j'y suis arrivé? » nous demande Jésus. Êtes-vous plus grand que moi? Je termine. Jésus crédite son ministère au Saint-Esprit. Il n'hésite jamais de lui donner la gloire. Il aime parler de lui. Il l'associe totalement à sa personne et à son ministère. Où en es-tu, toi, ce matin, par rapport au Saint-Esprit? Est-ce que tu entends le Seigneur dire, « Fais-lui confiance. Permets au Saint-Esprit d'avoir toute la place qu'il veut dans ta vie. Et ne crains pas. En lui donnant plus de place, je ne prendrai pas ma place. Je vais prendre encore plus de place, dit Jésus. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi. Connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Prenons une minute pour prier. Comment pouvons-nous être si ignorants? Comment puis-je être si résistant? Je ne ferai pas la liste, Seigneur, de comment j'ai résisté, mais je veux te dire que ton Saint-Esprit, je veux le connaître intimement. Je veux qu'il habite et qu'il remplisse ma vie. Je veux l'entendre me dire ô combien je suis aimé du Père. Je veux qu'il me conduise à travers la tentation, Je veux qu'il me donne la puissance, le discernement, la capacité d'être ton témoin, Jésus. Ô Saint-Esprit, nous sommes là, assoiffés et en besoin de recevoir toute ta plénitude. Visite-nous, remplis-nous. Ça, nous ne pouvons pas le faire, ô Dieu, mais nous pouvons te laisser le faire. Pour ta gloire, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.